Hey, Tampoco bara tuke 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 tak tuke toka tuke riga tuke raga tuke digo da unana bebe minuka petit kapuru en kweli koba tuke 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 tak tuke toka tuke riga tuke raga tuke digo da unana bebe minuka petit Tampoco bara tuke 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 tak tuke toka tuke riga tuke raga tuke digo da unana bebe minuka petit kapuru en kweli koba tuke 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 tak tuke toka tuke riga tuke raga tuke digo da unana bebe minuka petit.
C'est l'histoire d'une transmission. D'un château pinardier passé de génération en génération dans une famille de Lézignan-Corbière, une histoire qui aurait pu s'arrêter là, à la fin du XXe siècle, quand faire du vin ne faisait plus tant vibrer que ça. Ou plutôt, c'est l'histoire d'un défricheur, pas d'un héritier, mais d'un bâtisseur, Nicolas Mirouze, capable de se mettre à l'informatique alors qu'il n'y connaît rien, et d'écrire un livre au bout de 6 mois sur Java, le langage majeur pour le développement d'applications. Capable de se mettre au vin à la suite de ses ancêtres et de se dire qu'il va tout changer ou presque, la surface, le mode de culture, le type de vinification. À moins que ce ne soit l'histoire des pièces rapportées tombées amoureuses de ce domaine. Il y a d'abord eu le grand-père, professeur de médecine, qui a soutenu sa vigneronne de femme, attachée au lieu au point d'y avoir élu domicile pour le repos éternel. Et puis aujourd'hui, il y a Karine, la bordelaise aux racines espagnoles, sans qui Nicolas n'aurait peut-être jamais regardé le château comme impossible pour lui, qui a redécouvert son patrimoine familial grâce à ses yeux à elle. Finalement, c'est peut-être ça, l'histoire d'un regard. Un regard amoureux, entrelacé sur la vie, ses rebonds et ses projets. Un regard affûté, novateur, affirmé, sur l'agriculture et ses évolutions. Un regard généreux et utopique sur l'avenir, envisagé en partage et en collectif. Un regard sur les Corbières, un balcon sur le massif de Fontfroide, sa garrigue, ses pins, ses chênes verts et kermesse, son ciste, sa bruyère. C'est l'histoire d'un beau regard. Adicias Bravemunde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Glouglou. Dorénavant sur Radio Languedoc Narbonne, mais toujours aussi sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. L'émission qui s'intéresse aux vins vivants et qui fait le portrait de celles et ceux qui le font se poursuit et balade son micro du Larzac jusqu'aux Corbières. Et nous sommes aujourd'hui dans le studio de Radio Languedoc à Narbonne en compagnie de Karine et Nicolas Mirouze, château Beauregard-Mirouze à Bizanet, au cœur du massif de Fontfroide, à l'entrée des Corbières. Bonjour à tous les deux.
Adicias.
Adicias.
Pour nous aider à découvrir le château Beauregard-Mirouze, je suis accompagné aujourd'hui de Thierry Guichard, la part de l'ange à Valras-Plage, et bientôt prochainement à Narbonne. Adicias, Thierry.
Adicias.
Et de Frédéric Lambeuf, le pic à Mandil à Puy-Salicon. Adicias, Fred.
Adicias.
Frédéric Lambeuf, que nous proposez-vous de découvrir aujourd'hui dans votre chronique du verre à l'assiette ?
Alors, si ça vous dit, je vous propose de chiner quelques vinyles tout en écoutant un morceau de Pinguin Café et en sirotant un excellent expresso signé Le Perco à Narbonne.
Très bien, alors il faudra plutôt rebaptiser aujourd'hui la chronique du verre à la tasse. Nous écouterons ça tout à l'heure. Et vous, Thierry Guichard, à qui avez-vous écrit pour le retour de votre correspondance ?
Alors aujourd'hui, j'ai écrit à Richard Horton, qui est rédacteur en chef de la revue médicale The Lancet.
Très bien, nous attendons ça avec impatience. Nous retrouverons vos chroniques un peu plus tard dans l'émission. Pour le moment, je me tourne vers nos deux invités, Karine et Nicolas Mirouze, à qui je pose la première et rituelle question de l'émission. Pour vous, c'est quoi un vin nature ?
Donc, un vin nature, alors c'est bien de poser la question parce qu'il y a plein de définitions et chacun a un peu la sienne. Pour nous, un vin nature, c'est un vin qui est fait avec du raisin. Et c'est tout. Et avec du beau raisin, du bon raisin, du raisin sain. Donc ça veut dire qu'on essaie d'abord de faire un travail à la vigne pour que le raisin soit dans un parfait état, pour qu'après à la cave, il n'y ait plus grand-chose à faire.
Très bien. Nicolas, un complément ?
On va essayer. Un vin nature, pour moi, c'est un vin sincère. Et comme l'a dit Karine, c'est un vin qui se fait à la vigne. Voilà, c'est vraiment un vin qui se fait à la vigne. Et la suite se fait seule et nous, on accompagne. Mais notre travail, c'est la vigne, vraiment.
Très bien. On parlera plus précisément de votre travail, justement, à la vigne, de l'accompagnement des vins. Dans le chai, on écoutera un petit reportage sur votre lieu et on en reparlera, on dégustera même certaines de vos cuvées que vous nous avez gentiment amenées. Mais avant cela, je vous propose que l'on parle tout d'abord un peu de vous et de vos parcours respectifs et ensemble. Karine et Nicolas, vous avez tous les deux une formation d'ingénieur agronome qui a au moins eu un mérite, celui de vous permettre de vous rencontrer.
Oui. Oui.
Bah donc, racontez-nous, c'était où, c'était quand
Donc, c'était l'Institut National Agronomique de Paris-Grignon, aujourd'hui qui est rebaptisé AgroParisTech. Et c'était la promo d'entrée 93.
D'accord.
Ouais, ça fait pas longtemps.
Donc, vous vous êtes retrouvés tous les deux dans cette école, avec au départ des projets professionnels dans l'agronomie. Au début, pas du tout dans le monde du vin, je crois.
Non, pas du tout. Moi, je suis d'origine bordelaise, mais pas du tout dans le milieu du vin, même si j'aimais bien ça. Et en fait, non, moi, j'avais pour ambition, pour rêve de travailler dans l'eau et de régler les problèmes de l'eau.
Dans le monde.
Dans le monde,
ouais. D'accord. On verra, vous avez bifurqué. Nicolas, vous vouliez vous spécialiser plutôt dans l'informatique, entre informatique et agriculture, c'est ça ? Qu'est-ce que vous rêviez de faire à ce moment-là, quand vous étiez à cette école ?
Qu'est-ce que je rêvais de faire ? Mais je ne savais pas ce que j'allais faire, en fait. Donc, il a fallu trouver une orientation. Et c'est vrai que j'étais assez désenchanté par les matières académiques qui étaient proposées. Et donc, je suis parti dans un univers que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai fait de l'informatique.
D'accord.
Mais c'est un choix, du coup, par défaut, quoi.
Ouais.
C'est vraiment comme ça que ça s'est passé.
Une rupture avec le parcours initial, il y en aura une autre dont on va parler. Car dans le cadre de ces études, il se trouve que vous, Karine, vous avez eu à faire un stage dans le monde du vin. Et à cette époque, Nicolas s'est rappelé que sa famille exploitait un domaine dans les Corbières, près de Narbonne, et il vous y a emmené.
Oui, c'est ça. J'avais, dans le cadre de notre deuxième année, on avait un stage à choisir. Et j'ai choisi, moi, la Chambre régionale d'agriculture du Languedoc, basée à Montpellier. Et c'était le stage sur dresser des typologies d'exploitation viticole. Voilà. Moi, j'étais basée sur le département de l'Hérault. Mais Nicolas m'a dit à ce moment-là, viens, ma grand-mère est dans l'Aude, mais comme ça, tu pourras un petit peu te renseigner, puisque moi, je ne savais pas comment fonctionnait une exploitation viticole. Je n'étais pas du tout du milieu.
Et donc là, c'est vos premiers pas au domaine Beauregard.
Oui.
Et quelle a été cette rencontre ? Ça vous a fait quoi, cette première rencontre ?
C'est un domaine qui est vraiment magnifique, qui est isolé. Donc on y arrive par une petite route. On ne le voit pas de la route, donc de la départementale. Et quand on arrive, on voit cette bâtisse, on voit ces cyprès, on voit ces oliviers. Et on voit cette bâtisse avec des tons un peu ocre. Et puis toute cette garrigue autour. Et ouais, ça m'a rappelé un peu les paysages que j'avais dans mon village en Espagne, enfin du village de mon père, qui est comme ça, cette garrigue, et je sais pas, j'ai eu l'impression d'être à la maison.
Donc c'est une sorte de coup de cœur pour l'endroit
Ouais, de me dire, je sais pas, je suis arrivée, je vais poser mes valises là.
D'accord.
C'était pas conscient, mais je pense que des amis qui sont venus chez moi plus tard dans mon village en Espagne m'ont dit « Je comprends pourquoi tu aimes Beauregard ».
D'accord, d'accord. Donc on va voir, il a fallu quelques années avant de transformer l'essai de l'installation. Beauregard, donc c'est un grand domaine qui s'étend sur 350 hectares et qui est dans votre famille, Nicolas, depuis plusieurs générations.
Oui, depuis 1881. C'est à cette époque-là que le domaine a été mis en place, en fait, et a pris une orientation viticole. Puisqu'avant ça, il y avait une ferme sur le domaine qui s'appelle les Prévieux, mais qui depuis cette époque-là n'est plus en activité.
Et exploité depuis, sans discontinuer, donc depuis plus d'un siècle.
Ah oui, absolument. Oui. Chaque année, le raisin est récolté et vinifié dans le chai qui est sur place, qui a été construit à cette époque-là, en 1881.
D'accord, c'est ce que l'on appelle les châteaux pinardiers, qui datent en tout cas de cette époque, de l'âge d'or de la viticulture languedocienne, une grande maison de maître au milieu des vignes, c'est ça ?
C'est bien ça, et qui a été mis en place année, en fait. Donc c'était des placements très, très spéculatifs qui étaient réalisés à cette époque-là, et c'était vraiment l'âge d'or de la vigne dans le Languedoc, quoi.
Alors à la fin des années 90, quand vous y avez emmené Karine... Le domaine Beauregard est tout à fait conventionnel dans ses pratiques culturelles, mais il a quand même une originalité, c'est qu'il est tenu par une femme, par votre grand-mère.
C'est ça, par ma grand-mère, qui l'a repris en 1957. Donc ça, c'est une époque où il y avait encore des chevaux sur le domaine, où il y avait encore beaucoup de gens qui c'était avant la mécanisation hyper intensive qui s'est déployée ensuite dans les années 60 ou à partir des années 60.
D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez à cette grand-mère ? En quoi vous trouvez qu'elle a été pionnière à sa façon ? En quoi elle vous a aussi inspiré, même si vous ne travaillez pas tout à fait de la même manière ?
Alors, on ne travaille pas de la même manière, mais à sa façon, elle a étendu le vignoble. Alors, ça pourrait ne pas être très positif, mais il se trouve qu'elle a étendu dans une direction vraiment intéressante en allant plus loin sur les coteaux et donc en défrichant de la garrigue et en mettant en place des parcelles qui sont aujourd'hui les meilleures parcelles qu'on a sur le domaine. Donc voilà, ça vraiment on doit ça, et puis on doit aussi elle était assez innovante dans les vinifications, voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous a été transmis au démarrage, quoi.
Lors de votre première venue, donc ensemble en 1994, vous avez sûrement évoqué les questions de transmission. Vous saviez peut-être déjà que la génération de vos parents, Nicolas, n'avait pas envie de reprendre.
Déjà, ma grand-mère en fait souhaitait transmettre son domaine à ses enfants. Mais aucun ne souhaitait reprendre l'exploitation du domaine. Voilà. Donc ça a été une phase qui a été longue, qui a duré une dizaine d'années, sans qu'il y ait de repreneur, en fait, pour le domaine. Et donc nous, on est arrivés un petit peu plus tard, en 99, avec un projet de reprise qui a permis de débloquer toute cette phase de transmission.
Un projet qui est né, je crois, assez loin d'ici. En tout cas, le déclic s'est fait lors de votre coopération au Burkina Faso. Vous nous racontez ce moment où vous avez fait ce choix de vie, de revenir vous installer près de Beauregard.
Il est celui d'une volonté de partir de Paris. Et donc, autant partir loin. On a eu cette opportunité de partir en Afrique. Donc ça, c'est vraiment une rupture très, très importante et qui ouvre un champ des possibles, en fait. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on s'est dit... avec Karine, mais au retour, il faut aller à Beauregard, quoi.
Disons, pour compléter, on n'a pas choisi la facilité. Lui, dans l'informatique, on aurait pu partir dans la Silicon Valley. Enfin, il aurait pu partir dans la Silicon Valley pour faire beaucoup d'argent. On a choisi l'Afrique. On aurait pu choisir des métiers dans l'agro-industrie pour faire de l'argent. Et on a choisi l'agriculture.
D'accord. Donc, voilà. Et vous vous rappelez de ce moment-là, quand vous étiez là-bas, où vous avez... pris cette décision, c'était...
Ça a été un cheminement, je pense, qui s'est un peu... À partir du moment où il y a eu cette rencontre avec Beauregard, je pense que ça s'est infiltré dans nos veines et ça... j'ai pas un moment précis, enfin je sais pas toi Nicolas, mais j'ai pas un moment précis où je me suis dit c'est comme ça. Mais tout d'un coup, ça a paru une évidence, quoi. On s'est dit, ben ouais, c'est là qu'il faut aller.
En 2000, donc, vous venez vous installer dans la région. Vous avez d'abord imaginé gérer le domaine un peu à distance, comme votre grand-mère, tout en faisant une autre activité à côté. Mais je crois que ça n'a pas tenu très très longtemps, ça.
Oui, voilà, mais c'est exactement comme vient de le dire Karine, c'est pas à pas, les choses se sont faites, tant le choix de l'installation, le choix de s'y engager à 100%, l'orientation culturelle qu'on a donnée, les vins aussi, tout ça, ça s'est fait de façon progressive, pas à pas, voilà, c'est...
En effet, quand vous reprenez le domaine en 2000, vous ne connaissez rien ou presque à la vigne et au vin. C'est vraiment voilà, une intuition. Vous m'avez dit, bon, on avait peur de rien. Vous êtes lancé, vous avez appris pas à pas. Mais par contre, vous aviez la sensation d'emblée qu'il fallait changer des choses dans la conduite du domaine.
Ah, ça, c'est sûr. Il y avait vraiment l'idée que si on ne changeait pas les choses, en fait, on allait vers nulle part un peu terrifiant, quoi. Voilà, donc c'était un constat qu'on partageait, qu'il fallait vraiment transformer les choses en profondeur. Et donc, il y a eu un schéma vraiment de rupture très fort.
Et donc, qu'est-ce que vous avez changé concrètement à votre arrivée ?
Alors déjà, on a réduit la première chose qu'on a envisagé de changer, mais ça aussi, ça se fait un peu dans le temps, mais ça a mis 3 ans, mais on a décidé de changer la surface en fait du vignoble, voilà, pour réduire la voilure et le mettre à une échelle qu'on puisse maîtriser. Donc on a réduit la surface en fait par 2, où on est passé de 50 hectares à 25 hectares. Et en faisant ça, on a divisé le volume par 4 parce qu'on a choisi les parcelles les plus qualitatives.
D'accord. Et vous avez commencé à travailler par nécessité, de manière conventionnelle, et comment petit à petit les choses ont bougé aussi là.
Ah mais bien sûr, on a repris le domaine tel qu'il était, donc de ce point de vue-là, la culture était conventionnelle. On a arrêté, immédiatement, on a arrêté les engrais chimiques, mais parce qu'on avait une volonté en fait de produire moins. Et on avait vraiment le sentiment que la production était trop importante. Donc, en arrêtant les engrais, c'était une première façon en fait de réduire la vigueur des cèpes et la quantité de raisins qu'ils nous offraient chaque année, quoi. Donc voilà, et progressivement, ben, on s'est engagé sur une culture différente. Mais on a commencé avec la chimie du conventionnel. Donc on a cultivé de cette façon-là la vigne pendant plusieurs années.
Et comment, je me demande, comment vous vous êtes forgé ces convictions, vous qui... ne rien connaître à cette époque, comment vous sont arrivées toutes ces intuitions, sur quoi, sur quelles valeurs vous êtes appuyé pour opérer ces changements?
J'ai envie de dire que c'est en dégustant aussi des vins de voisins, d'autres vignerons, en allant sur les salons, où on s'est dit quand même le vin, il faut qu'il ait le goût de là où il est produit. Et forcément, quand on se dit ça, quand on regarde notre terre qui était morte, enfin, qui était sans vie, ça a été un objectif de redonner vie au sol. Et après, à force de goûter, de se dire, mais il faut avoir ces valeurs de qualité, donc produire de qualité, en respect avec l'environnement et en respect avec la santé humaine aussi. C'était ça a été nos valeurs, en fait, en vivant sur place, parce que nous, on vit sur place. On a eu nos enfants, notre premier fils est né en 2000, donc la même année. Et là, on se dit, mais je ne vais pas élever mon enfant dans un environnement... chimique.
Mmh. De 2000 à 2007, vous avez donc lancé cette reprise du domaine, commencé, on vient de l'entendre, à en changer les méthodes. Vous en avez assuré la viabilité économique qui a permis à Karine de vous rejoindre à plein temps, donc 7 ans après le début de l'aventure. En 2010, vous avez obtenu la certification bio et en 2018 en biodynamie. Vous dites, je crois, qu'il vous a fallu environ 15 ans pour vraiment aboutir et transformer le projet tel que vous le souhaitiez, quoi. Enfin, pour aboutir à quelque chose vraiment qui vous convienne.
Mais 15 ans pour se dire, sans avoir l'inquiétude de se dire où on sera l'an prochain, est-ce qu'on sera encore là, est-ce que le domaine sera pérenne, viable, parce qu'on pouvait avoir des performances économiques avant, mais de se dire qu'on a créé un réseau, qu'on sait où on va, qu'on a trouvé un peu notre manière de travailler... même si on est toujours en recherche, hein, entre parenthèses. Mais oui, ça a mis 15 ans où on peut se dire, bon, ben, ok, maintenant, on regarde devant et on ne regarde pas au jour le jour. Puisqu'à un moment donné, on était un peu en mode survie plus qu'en mode avenir et préparation et projet, même si on en avait, mais c'était toujours avec cette incertitude ou cette angoisse de se dire, et demain.
15 ans donc pour stabiliser un projet, des pratiques et que vous continuez, on va en parler encore tout à l'heure, à questionner, à améliorer. Et j'ai envie de vous demander aujourd'hui, quel regard porte votre grand-mère sur votre parcours, votre manière de travailler? Qu'est-ce qu'elle vous dit, parce qu'elle est... Ouais, encore envie.
Je pense qu'après un premier regard effrayé, vu la transformation engagée, mais qui était juste la réduction, hein, c'était ça notre transformation. Je pense qu'il y a eu une phase qui a suivi de compréhension et maintenant je pense qu'il y a une phase d'apaisement total, quoi, puisque Beauregard a l'air en bonne forme, quoi.
En tout cas, elle l'a toujours fait avec beaucoup de respect, sans intervenir.
Elle vous a laissé faire.
Oui, complètement. Mmh. Je crois qu'elle était tellement soulagée que quelqu'un reprenne, qu'elle intervenait très peu. Elle venait par contre toujours déguster pendant les vendanges tant qu'elle le pouvait physiquement. Et donc plutôt bienveillant, j'ai envie de dire. Même si on voyait de temps en temps que... elle n'aurait pas fait comme ça, ou que vraiment les jeunes, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Mais c'était toujours avec beaucoup de discrétion.
Thierry Guichard, une question subsidiaire à poser à nos invités?
Oui, c'est une question un peu autour de l'héritage. On pourrait schématiser le fait qu'il y aurait deux genres de styles de vignerons. Celui qui veut que son vin rende compte du terroir d'où il est né, d'où la vigne est née. Et celui qui voudrait faire un vin et qui donc va choisir son terroir en fonction de ça. Donc dans le premier cas, celui qui veut garder la mémoire du terroir, ce serait Didier Barral dans l'Hérault, qui conserve les mêmes terres de ses ancêtres. Et puis dans l'autre cas, ce serait Olivier Julien qui est capable de vendre une vigne pour en acheter une autre parce qu'il a une vision du vin. Vous vous situeriez de quel côté? Parce que vous avez un héritage et en même temps, cet héritage, vous prenez un contre-pied sur cet héritage-là.
Alors... moi, je le vis de façon beaucoup plus simple et je pense avec moins de perspectives que ce qui vient d'être décrit. Moi, je me fonds. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Je pense qu'on a une évolution vraiment très marquée sur ce qu'on fait, sur le style, sur la vision. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que dans 5 ans, je ne ferai pas le même vin qu'aujourd'hui. Voilà. Moi, vraiment, je me fonds dans ce que je ressens de l'endroit. Et je ne connais qu'un endroit pour faire du vin, voilà, c'est Beauregard. Je n'ai pas de connaissance autre que ce lieu.
Vous ne pourriez pas faire du vin ailleurs ?
Bah, je recommencerai, je pense. Enfin, je serai débutant ailleurs. Voilà, mais par contre, je suis maintenant intimement fusionné dans cet endroit. Voilà. Donc, je ressens les choses là.
Moi, j'ai une expression que j'utilise souvent. Je dis, avec Nicolas, on est les gardiens de Beauregard. On n'est que de passage. Et du coup, on l'a pris dans une certaine forme, on l'a transformé et j'espère qu'il pourra poursuivre, on verra qui, sans mettre aucune pression ni sur les enfants ni sur personne. Mais voilà, on est de passage. Donc on essaie de faire de notre mieux pour embellir ou le rendre le moins mal possible.
Avant de poursuivre, Karine et Nicolas Mirouz, la découverte de votre travail et de vos vins, on reste avec vous, Thierry Guichard. À chacune de vos interventions dans l'émission, vous écrivez à quelqu'un de différent. Donc, à qui s'adresse la missive du jour ?
Donc, cette lettre ouverte est adressée à Richard Horton, qui est rédacteur en chef de la revue The Lancet. « Hi, Richard. How are you, mon ami ?» Oui, je dis « mon ami » parce que tu ne le sais pas, Richard, mais toi et moi, on est nés le même jour en décembre. Bon, toi, 3 ans avant moi, mais quand même, ça nous rapproche, ils intitent. Je te rassure, my friend, je ne t'écris pas au sujet de l'étude bidon sur la chloroquine que tu as publiée en 2020. On en a beaucoup parlé en France, comme si c'était la première fois que ta revue The Lancet publiait une connerie. On ne va pas reparler du truc sur les vaccins et l'autisme paru, lui, en 98, on est d'accord. Non, j'ai trouvé bien que The Lancet revienne cet été sur l'étude parue en 2018 qui nous a bien pourri la vie pendant 4 ans. Je peux te dire qu'en 2018, je ne t'aurais ni tutoyé, ni appelé my friend, quand bien même tu serais né le même jour, à la même heure, la même année que moi. Et de la même mère, tiens, tant qu'on y est. Parce que votre étude, là, sur les méfaits du vin, c'était pas du Tchekhov, c'était plutôt de l'Alexandre Jardin qui aurait viré Gore. Franchement, aller déclarer en 2018 que le vin était nocif dès le premier verre, mais quelle connerie. Je dis vin, mais dans l'étude, il est question d'alcool, comme si tous les alcools étaient pareils. Je peux t'affirmer, Richard, que le pastis qu'on fabriquait soi-même dans les rues d'Orteneuve à Narbonne dans les années 70, avec des extraits achetés au Pertus, c'était pas tout à fait pareil que le rousse de Beauregard côté conséquent sur le foie. Mais ça, mon Richard, c'est la vie qui le dit, pas tes tableaux Excel. Bon, toi, tu es scientifique, moi, je serais plutôt tendance alcoolique, donc forcément, on n'a pas le même approche. Mais ton étude, là, dès sa parution en 2018, c'est pas les alcoolos qui l'ont critiqué, c'est tes collègues médecins, chercheurs, scientifiques. Mais trop tard, too late. Et oui, fallait pas trop insister pour que les braves gens de l'hygiénisme international, ça part du Beans. Le premier verre d'alcool nocif d'après The Lancet, waouh, c'est pain béni, hostie fourrée aux épices des croisades pour les corseter de l'intestin grêle. Haro sur les vignerons, haro sur les distillateurs, les cavistes et les bistrotiers. C'est simple, j'étais obligé de sortir masqué. Ma fille, à l'école, devait dire à qui lui demander que son père vendait des jus de raisin et de céréales. Et surtout pas écrire qu'il était caviste, sinon c'était la lalie, le lynchage, la roue. Même le vin de Metz était suspect, c'est dire. Le 6 décembre 2018, le comité BECA au Parlement européen publie un rapport mettant en cause toute aide à la production viticole en s'appuyant sur votre étude selon laquelle la première goutte bue et hop, c'est le cancer généralisé. Paraît même que Claude Évin, ce jour-là, a commandé une palette de champomis pour faire la teuf avec les octogénaires européens. Je ne sais pas comment elle a été faite cette étude, mais par exemple, est-ce que vous faites la différence entre tiens, le vin bucolique de Karine et Nicolas et un truc produit par millions de bouteilles avec un tiers de raisin, un tiers de glyphosate et un tiers de SO2 ? Non ? Je ne sais pas comment elle a été faite cette étude, mais par exemple, vous prenez en compte le petit verre d'alcool qu'on boit en charmante compagnie pour se donner le courage de dire des mots doux et se retrouver à passer la nuit à se faire des mamours jusqu'au matin et ensuite courir et voler dans les rues pour aller chercher croissants et jus d'orange afin de remettre ça ? Non ? Parce que ce petit verre d'alcool, s'il débouche sur du bonheur, il ne peut pas être foncièrement nocif, tu vois, Richard. Je ne sais pas comment elle a été faite, cette étude, mais bon, cet été, avec les mêmes bêta-données, la même équipe de chercheurs, voilà que The Lancet trouve qu'il y a parfois la possibilité de ne pas écarter l'éventualité d'un bénéfice dans la consommation maîtrisée d'un peu d'alcool. 4 ans pour amorcer l'ombre d'un embryon de mea culpa, c'est pas super rapide, mais qui sait, à ce rythme-là, la bouteille de vin sera peut-être remboursée par la Sécurité sociale en 2099. Encore en effort, mon poteau. Et je vais te dire un truc, Richard. Si demain, nos dirigeants voulaient interdire l'alcool, il faudra en France se mettre à produire d'urgence de bonnes poutres. Des poutres bien solides pour aller s'y pendre. Alors dis-moi, Richard, ne crois-tu pas que se pendre nuit plus à la santé que boire un bon vin de vin nature ?
Merci Thierry Guichard. Vous avez quand même des drôles d'amis, Thierry. Hein. Mais au moins, vous avez le mérite de leur parler franchement. Le vin, une certaine idée du bonheur, notamment ceux de Nicolas et Karine Mirouz, c'est ceux que nous allons essayer de continuer de vous raconter et de déguster. Mais avant cela, nous allons faire une première pause musicale. C'est vous, Karine, qui avez choisi le titre. Je vous laisse nous l'annoncer.
Respire de Gaël Faye.
C'est parti.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Tichel grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face. Poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo. Faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence. Se foutre des codes, des routines étroites. Quitter son rôle, les cases et les boîtes. Ne pas craquer, claquer, cramer. Desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
T'as le souffle court,
respire.
Quand rien n'est facile,
respire.
Même si tu te perds,
respire.
Et si tout empire, espère.
Respire de Gaël Faye, le choix musical de Karine Mirouz, aujourd'hui dans Glouglou avec son mari Nicolas et nos deux chroniqueurs Thierry Guichard, la part de l'ange à Valras-Plage, et Frédéric Lambeuf, le picamandi, la puce à Licon. Vous êtes sur Radio Languedoc ou sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud et nous découvrons ensemble le domaine Beauregard-Mirouz dans les Corbières. Et pour cela, je vous propose maintenant de partir en balade dans le domaine guidé par Karine et Nicolas Mirouz. Voilà, alors là on est sur la terrasse du domaine Beauregard. Karine, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'endroit, l'épicentre du domaine ?
Ah bah alors ça s'appelle Beauregard et bon ça porte bien son nom, hein. Il faut venir nous rencontrer ici au domaine si vous voulez comprendre quoi. On a une vue extraordinaire sur D'abord sur ces arbres, sur des pins, sur toute la garrigue qui est derrière. Bon, cet incroyable château fort qui est à 500 mètres de nous.
Il s'appelle voilà,
qui s'appelle Saint-Martin de Toc. Et puis, entre ici et Saint-Martin, ben, y a nos vignes qui commencent. Et, alors ça, c'est une première partie hein, du vignoble. Et on a une autre partie qui est sur le massif de Fontfroide.
Et là, on est donc au pied du domaine, du château, qui est donc, on l'a dit, un château... de l'époque 19e, cette époque de la viticulture languedocienne florissante. Vous nous décrivez un peu la bâtisse.
C'est une bâtisse assez imposante, alors qui n'a pas... on donne le nom de château plus parce que toutes les vignes et tout fait un ensemble, une unité de lieux. Mais c'est une très belle maison de maître qui a la particularité d'avoir un campanile, en fait, d'avoir une cloche qui surplombe. Et d'ailleurs, on a une cuvée, nous, qui s'appelle Campana, un peu en hommage à cette cloche, parce que architecturalement, on dit « mais qu'est-ce que ça fait là ?» Et ça servait, en fait, à l'époque, parce que le domaine s'étend sur de longues distances, et ça servait à l'époque pour appeler les gens, pour leur dire c'est l'heure du déjeuner ou c'est la fin de la journée. Voilà, c'est rassembleur.
Super, et donc on est là, on est devant chez vous, c'est là que vous habitez ?
Alors non, nous on a notre petit coin à nous, ça, c'est la maison familiale.
D'accord.
Qui est très grande, hein, et nous on s'est fait quand on est arrivé, on a voulu se faire notre petit coin à nous. Voilà, on entend les ânes au loin, peut-être.
D'accord, et on est donc sur la terrasse où il y a eu le repas des vendanges il n'y a pas longtemps.
Ouais, bah c'est une belle terrasse où on peut accueillir plein de monde. On a fait de belles fêtes ici, de beaux concerts, des belles soirées. Et ici, oui, on a encore la grande table installée, enfin, où on était, bah oui, pour le repas des vendanges, on était une vingtaine.
Sous les platanes.
Voilà. Des vendanges qui se sont étirées en longueur, donc on a fait plusieurs repas de vendanges, en fait. Chaque week-end, on faisait un repas de vendanges au cas où. Parce que chaque semaine, on perdait un ou deux vendangeurs, d'autres arrivaient, donc c'était toujours une fête.
Super. Bon, ben merci. Je ne sais pas si on peut voir, si c'est pas loin, d'aller voir une vigne.
Oui, on peut voir une vigne, on peut aller dans le chai aussi.
Bah ouais.
Alors, on va d'abord aller dans le chai et ça nous conduira vers la vigne.
Ok. On entre dans le chai.
Alors on entre dans le chai, bon, donc là, tu as l'odeur, quoi, tu vois, c'est... Bon, mais là, c'est exceptionnel, c'est en effervescence absolue, on a plein de cuves qui fermentent. Alors, les blancs sont finis de fermenter, on a commencé les vendanges très tôt, hein, le 16 août. Et donc, on commence par les blancs, mais là, on vient de finir, à peine il y a quelques jours, de ramasser, voilà, et là, on est sur les rouges. Et donc là, ce qu'on sent, c'est le vin rouge qui est en train de faire sa folie, quoi, de fermenter et voilà. Et alors on va aller au fond du chai.
Donc il y a un alignement de cuves en béton dont vous vous servez encore, j'ai l'impression.
Oui. En fait, on se sert du côté droit et pas du côté gauche. Voilà, le côté droit, c'est les plus petites cuves. Alors celle-là, on travaille dessus, en fait, on les rénove petit à petit, et donc là on n'en a plus qu'une à rénover. En fait, on les segmente pour avoir des cuves plus petites, voilà, parce que nous on a besoin de faire nos lots parcellaires, en fait. Donc, avant, ils n'avaient pas ce souci, et donc les cuves étaient trop grandes, et là elles sont donc quand on est sur la gauche, là toutes les cuves qui sont à gauche, en fait, sont beaucoup trop grandes, donc là il n'y en a aucune qui sont utilisées. On va faire des grands travaux l'hiver prochain. Voilà, on va casser en fait cette partie-là et récupérer l'espace. Voilà, ouais. Ça va beaucoup changer cette partie-là de la cave. On va pas changer toute la cave, mais cette partie-là, on va la changer.
Du coup, votre vin, là, il est élevé dans des cuves qui ont connu des millésimes et des millésimes, alors, si je comprends
oui.
bien.
Ben, celles-là, elles sont depuis les années 60, non, début des années 60.
Ce qui est déjà pas mal.
Après, la particularité ici de cette cave, voilà, c'est ça, c'est ce mur. En pierre apparente, puisqu'en fait la cave elle date de 1885 et elle a été creusée dans la roche. Donc aujourd'hui on a une cave qui est semi-enterrée, c'est-à-dire qu'on a toute cette partie-là qui est voilà, là on est sous le sol. Donc ça garde une fraîcheur naturelle, de bonnes conditions, et puis ça permet ici de voir, on est au cœur du terroir, quoi. On a le grès qui parle directement au vin. Et ça, c'est une belle image.
Voilà, et du coup, cette partie-là de la cave sera évidemment pas concernée par les travaux qu'on va faire l'hiver prochain. En fait, c'est très important aussi de comprendre dans la démarche dans laquelle on est de vin naturel. On fait des fermentations spontanées, ça veut dire sans intrants, ça veut dire en particulier qu'on rajoute pas de levure. Ça veut aussi dire qu'on ne sulfite pas notre vendange. Et en fait, les levures qui vont fermenter nos raisins, et c'est bien les levures, en fait, c'est les populations de levures qui vont finir la fermentation de nos raisins, ben, en fait, elles font partie d'un écosystème dont ce chai fait partie, en fait. Hein. Donc, tout ce que vous voyez, en fait, cette roche, vous voyez qu'ici, il n'y a rien d'aseptisé, et c'est vraiment pas la logique d'aseptiser les choses, hein, puisque c'est la population qui est là, qui va faire le boulot d'une année sur l'autre. Voilà, donc ça, c'est là, donc on vient de faire, en fait, une visite, non pas d'un chai, mais d'un écosystème singulier, quoi.
D'accord.
Voilà. Et du coup, on peut aller vers la vigne.
Allez.
C'est un groupe de froid
ouais.
qui nous permet de faire du froid pour maintenir certaines températures, enfin de froid ou de chaud d'ailleurs, à la cave. Parce D'accord. que là, c'est la période des vinifications et il y a des vins où on ne veut pas que ça chauffe trop, mm-hmm. comme certains rouges. Ouais. Parce que même en fermentation spontanée, les levures, ça, quand même, ça chauffe. Ça peut chauffer, il faut faire attention de ne pas trop chauffer. Et inversement, il y a des blancs ou des rosés ou des rouges légers qu'on peut vouloir maintenir pour des fermentations en dessous de 20 degrés, par exemple. Donc voilà, c'était ce bruit.
Et vous faites tout à deux ou vous avez des spécialités un peu l'un et l'autre Est-ce que vous répartissez les tâches ou tout le monde un peu, tous les deux
Alors, il n'y a pas une exclusivité, mettons, de la vigne d'un côté et de la cave de ouais. l'autre. Par contre, Nicolas, il est clairement au quotidien à la vigne et sur la partie conduite culturelle. Mmh. Après, moi, j'interviens à la vigne plus ponctuellement sur certains travaux, plutôt les travaux de printemps, d'envers, de relevage et bourgeonnage ou autre. Et après, moi, sur la partie surveillance un peu phytosanitaire que je fais l'été, et sur la partie aussi suivi des maturités. Comme j'ai passé un peu l'été dans les vignes à regarder comment ça évoluait, ça me permet d'avoir le contact avec le millésime. Nicolas aussi, hein, mais voilà, ça c'est plus ma partie.
Il faut être, en fait, c'est important d'être connecté, quoi, à ces vignes pour ressentir le millésime et savoir comment ça va se comporter en vinification, quoi. Après, on est très peu interventionniste en vinification. Bon, ok, on ne levure pas, on ne sulfite pas. Mais les choses, en fait, on intervient beaucoup sur le choix de la durée de macération. En ouais. fait, c'est ça. C'est...
Mais pas trop de pigeage.
Ah,
pas
non,
trop.
On ne fait pas de pigeage. Ouais. Enfin, vraiment, on travaille juste en oxygène les vins par des remontages.
Ouais.
Et ça se fait tout seul quand tout est quand tout a été bien fait avant, ça se fait vraiment très bien et très simplement, quoi.
Alors là, on est arrivé devant une de vos vignes. Vous me décrivez un peu ce qu'on voit.
Alors là, on est sur une parcelle qui s'appelle, parce que chaque parcelle a son petit nom, celle-là, elle s'appelle Les Bourrelets. C'est un cépage de Mourvèdre. Et donc, c'est la dernière vigne qu'on a vendangée cette année, le 7 octobre. Et là, on est sur un affleurement de grès qui est particulièrement rouge, qui est ferrugineux. On a des grès qui sont des fois un peu plus sur des tons ocre, mais là, il est vraiment assez rouge. Et on voit que là, on a après les vendanges, on a déjà travaillé un petit peu pour semer les couverts végétaux qui, une fois que la pluie sera là, on espère bientôt, viendront recouvrir tout le sol pendant tout l'hiver. Et le printemps, et le plus tard possible, selon la météo qu'il fera au printemps. Donc c'est elle bien. Est encore bien verte, on voit quand même, ça commence à jaunir, on sent que l'automne arrive, voilà, elle était contente, je pense qu'on lui enlève ses raisins, elle va pouvoir se concentrer sur son côté végétatif et faire ses réserves pour passer l'hiver et être prête au réveil au printemps prochain.
Et moi, je dirais, ce qu'on voit là, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi, qui est, ouais. C'est un décor extraordinaire, quoi. Hein. C'est donc là, c'est le massif de Fontfroide, quoi. Hein. C'est extrêmement sauvage. C'est beaucoup d'arbres. Cet environnement, eh ben, il est fondamental. Vraiment, il fait partie du goût de notre vin. Hein. C'est évident quand on est là. Il faut être là pour comprendre. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même un début de soirée là extraordinaire, quoi. C'est il y a une paix, hein. Il y a une sérénité là.
On entend les oiseaux. Et puis on voit la diversité aussi des arbres. Hein. Il y a beaucoup de pins, c'est sûr, mais il y a quand même, on voit des chênes verts. On voit aussi, ici, la particularité, c'est qu'on a beaucoup de bruyères. On est sur un sol acide, donc il y a beaucoup, beaucoup de bruyères. Alors là, elle n'est pas en fleurs, mais revenir au printemps avec cette bruyère toute blanche, c'est magnifique. Il y a beaucoup de cistes, il y a beaucoup des chênes kermesses. Il y a, il y a quand même...
C'est vrai que c'est une végétation qui est dense hein, autour de la vigne. Oui. C'est vrai que la vigne est un petit îlot au milieu de ça, là, qui semble protéger, entouré.
C'est cette clairière dont je parlais tout à l'heure, voilà.
Voilà, ici, donc, sur le massif, c'est ça. Nos vignes, elles sont comme ça, éparpillées, en fait, hein, au sein de ce massif. Et là, si on avance un peu, ben, au fond, on va voir, on va deviner les Prévieux. La ferme des Prévieux, on voit juste le toit là-bas entre les cyprès, quoi. Donc ça, les Prévieux, c'est la ferme qui était en activité au 19e siècle. Et c'est ce bâtiment, en fait, qu'on voudrait voir redevenir, en fait, une ferme vraiment de polyculture, élevage, voilà, pour sortir de ce schéma un peu monolithique de monoculture de la vigne, hein, comme on a ici beaucoup, évidemment, dans le Languedoc.
Et au fond, on voit quoi ? C'est les hautes corbières.
C'est les hautes corbières, Saint-Victor, là, au fond. C'est Saint-Victor qu'on voit là-bas.
D'accord. Et là, c'est pas dégagé, mais partant plus clair, on peut voir le Canigou.
D'accord. Voilà. C'est une chance incroyable
qu'on
a de vivre ici. C'est vraiment une joie de tous les jours, quoi.
Ouais.
Renouvelée. Mais c'est encore plus enthousiasmant quand on boit nos vins, quoi.
Eh ben oui.
Le château Beauregard-Mirouze à Bizanet sur le massif de Fontfroide, une visite guidée par Nicolas et Karine Mirouze, vignerons et habitants, car c'est une de vos particularités. Vos ancêtres, Nicolas, n'avaient jamais vécu sur place. Vous êtes les premiers dans la lignée à avoir investi les lieux pour travailler et pour vivre.
Et voilà.
On vient d'entendre l'importance que vous accordez à la notion d'écosystème, de la végétation qui entoure vos vignes jusqu'aux populations de levures qui habitent votre chai. 22 ans après avoir repris le domaine, après avoir d'abord travaillé les vignes en conventionnel, et puis après avoir tout passé en bio, puis en biodynamie. Aujourd'hui, on peut dire que ce que vous visez, c'est une forme d'autonomie paysanne. Qu'est-ce que cela signifie ?
Ah, l'autonomie paysanne, c'est une compréhension, en fait, de ce qui nous empêche d'avancer, de ce qui nous empêche d'évoluer, de ce qui nous empêche de penser ce qu'on pense nous. Dans l'agriculture, on est très contraint, en fait, par des dépendances qu'on se crée et qu'on subit. C'est une prise de conscience de cet état de fait, en fait, qui nous a amené sur ce chemin de l'autonomie.
Voilà, qui pour vous va des cultures jusqu'au même aux outils. Vous apprenez l'autoconstruction, vous essayez même de la promouvoir.
Exactement, avec l'atelier paysan, on est sociétaire d'une coopérative d'autoconstruction, donc qui nous accompagne dans ces réalisations. Et on est vraiment promoteur de cette idée, quoi, qu'on défend, en fait, de bien prendre conscience de pourquoi, en fait, on peut pas changer. On peut pas changer parce qu'on est contraint, lié. Et voilà, il faut casser ces chaînes-là dans un premier temps pour envisager de changer.
Vous rêvez d'autonomie, mais aussi de diversification, je crois. On l'entend. Vous aimeriez peut-être que dans les années futures, partager un peu une partie de votre domaine avec d'autres productions, un peu pour retrouver l'essence de ce domaine, puisqu'il y avait une ferme, les Prévieux, sur les lieux, c'est ça ? C'est un des objectifs peut-être pour le futur d'évolution ?
Oui, c'était l'essence du domaine, mais c'était aussi l'essence des Corbières, hein, qui avant était une terre d'élevage aussi. Et on a déjà de l'élevage, puisqu'on a un berger qui vient faire pâturer ses moutons. Et comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, quand on a réduit la superficie, On s'est retrouvé avec des hectares aujourd'hui. On a une quinzaine d'hectares de champs qu'on exploite en girobroyant ou en semant, mais qu'on souhaiterait aujourd'hui proposer à d'autres paysans, paysannes, pour s'installer, pour faire peut-être des céréales, du maraîchage, de l'élevage de poules ou de porcins. Et aussi exploiter cette vieille ferme des Prévieux qui est aujourd'hui à l'abandon et pour lequel on pourrait accueillir, dans lequel on pourrait accueillir peut-être des artisans, des transformateurs, des fromagers, un brasseur, un boulanger.
Eh bien, Frédéric Lambeuf peut-être pourrait vous donner des idées puisqu'il en rencontre de nombreux et c'est justement vers lui que je me tourne pour nous faire découvrir aujourd'hui la démarche d'un torréfacteur, enfin bien plus que cela. On vous écoute.
Alors Pierre-Marie est né à Rennes d'une mère bretonne et d'un père franc-comtois. Il part à Toulouse pour une licence de géologie et s'intéresse à l'étude des sols en milieu viticole qui le conduira à Dijon où il travaillera sur le sens du caillou dans le goût du vin. Il fait un stage de fin d'études à Bordeaux, à la Chambre d'agriculture, et travaille son mémoire sur les potentialités aromatiques des merlots de l'Entre-deux-Mers, qu'il s'amuse à nommer le Brooklyn de l'AOP Bordeaux. Il fera divers petits boulots dans l'étude des sols, puis prendra son sac à dos et partira en Amérique latine avec son épouse. Au retour, il travaille comme consultant sur le sol des vignes pour un laboratoire œnologique narbonnais. La ville leur plaît, c'est là qu'il décide de jeter l'ancre. Lui a besoin d'être créatif. Son père était journaliste à Ouest France et critique de musique. Lui, ado, a appris à jouer de divers instruments et étudiant, rêvait de faire DJ. À Narbonne, il aimerait être disquaire ambulant, mais c'est difficilement rentable. Alors il pense au café pour compléter et suit une formation. C'est comme ça que le café est rentré dans son projet et désormais dans sa vie. De la géologie au vin puis au café, c'est toujours la même question qui l'anime. Pourquoi ça goûte ça? Il crée le percolateur. De percolare en latin, qui veut dire filtrer. Dans filtrer, il y a la notion de prendre le temps pour écouter et goûter. Lui, il passe du son, vend des vinyles et fait du café. L'expérience qu'il propose est à la fois sonore et gustative, en mode debout. On écoute la musique, on sirote un bon café et on chine dans les bacs à disques. Il tourne pas mal dans le monde des arts et travaille avec la médiathèque de Narbonne, puis devient incontournable du marché bio de dimanche. Durant sa formation sur le café, il a croisé Esperanza Café à Paris et Barcelone et Moxa à Lyon. Il se fournit en café équitable, sourcé par Esperanza, et torréfie à Barcelone. Il profite de la période Covid pour se former à la torréfaction et demande à son fournisseur s'il peut torréfier lui-même le café qu'il lui fournisse. Lorsqu'il décide de renouveler le matériel, il lui propose de lui vendre leur machine. Il s'installe alors dans la zone Croix-Sud à Narbonne et le percolateur devient le perco. Ainsi, petit à petit, il remonte la filière. Désormais membre de la coopérative d'achat Roasters United, il s'intéresse à la dimension directe à la source. La coopérative a depuis 10 ans tissé des liens étroits avec des coopératives de petits producteurs bio sur un mode éthique. Ces partenariats sont parfois malmenés lorsque la hausse du cours du café vert à New York tente certains producteurs à vendre au plus offrant. Avec 17 coopérateurs, le Perco n'est plus un point en France, mais un point en Europe. Il y a les rencontres annuelles, les problématiques à régler, les échanges. Tout cela est super enrichissant pour Pierre-Marie, qui avec sa casquette de DJ est devenu l'animateur officiel de leur rencontre. À la réception du café vert, le torréfacteur prend son taux d'humidité et va appliquer sa recette. Il a d'abord deux leviers, le poids de chargement et la température pour fixer son profil, léger, intermédiaire ou poussé. Ensuite, selon les fréquences de maniement du gaz, en baissant ou parfois en augmentant, avec le maniement du flux d'air et enfin le choix de la couleur de sortie, le torréfacteur va façonner son produit. Il pourra évaluer le goût 24 heures après minimum. Le Perco torréfie des cafés bio et équitables de spécialité. Un café de spécialité, c'est un café noté comme ayant été produit, récolté, torréfié de façon qualitative et respectueuse. L'origine étant respectée, le torréfacteur a un maximum d'informations et adapte sa recette selon les crus et les millésimes. Pierre-Marie me faisait remarquer que, comme pour tous les bons produits, le sentiment de satiété arrive plus rapidement. On prend plaisir à boire un bon café, mais on n'en boit pas des litres. On parle ici de 5% du marché mondial. Si on veut faire un parallèle avec le vin, la dégustation du café est tout aussi possible. Travailler la curiosité du palais, aller chercher les saveurs et les goûts. Mais comme pour le vin, au-delà de faire des étages d'analyse et commentaires, c'est de prendre du plaisir qui est le plus important et le Perco s'y attache à nous le procurer. Le sien de plaisir, c'est de voir son café servi ou vendu dans de beaux lieux, où on prend le temps de parler du produit ou de le déguster. Il travaille à une labellisation café équitable, même si c'est déjà le cas dans les faits. La prochaine étape, ce serait de faire un voyage à la rencontre de celles et ceux qui produisent le café qu'il utilise. Le Perco aujourd'hui, c'est un site internet, leperco.fr, un stand sur le marché bio du dimanche Cours Mirabeau à Narbonne, des prestations caféinées et musicales sur devis, un service d'installation de machines chez les particuliers et les pros, ainsi que la vente de café et vinyle.
Merci Frédéric Lambeuf pour ce coup de projecteur sur le Perco, un exemple de diversification à sa manière. Alors le temps de sortir et d'ouvrir les bouteilles du château Beauregard-Mirouze, nous faisons une deuxième pause musicale. Cette fois c'est Nicolas qui a choisi le titre, je vous laisse nous l'annoncer.
Blowing in the Wind de Dylan.
C'est parti.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bob Dylan, le choix musical de Nicolas Mirouze. Aujourd'hui dans Glouglou avec sa femme Karine et nos deux chroniqueurs Thierry Guichard et Frédéric Lambeuf. Vous êtes sur Radio Languedoc ou sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Et nous découvrons aujourd'hui le château Beauregard-Mirouze dans les Corbières, dont nous allons à présent déguster deux cuvées. Et donc la première est sur la table, elle s'appelle Pétouze, donc c'est un pétillant naturel. Qui nous parle, Karine ou Nicolas, de cette cuvée ?
Moi, je vous parle de la cuvée, c'est Pétouze, donc c'est un cinceau qu'on a ramassé en sous-maturité. Et donc voilà, on a un vin extrêmement léger et vraiment la fermentation donc se finit en bouteille. Hein, on met en bouteille ce vin pendant les vinifs et la fermentation se termine dans les bouteilles. Et là, les petites bulles viennent souligner la fraîcheur et la légèreté. Donc c'est vraiment top, quoi.
Je me tourne vers les cavistes professionnels. Pétouze.
Ouais, ben ça fait partie des vins qui expliquent pourquoi on est caviste en fait. Hein. Non, c'est très bon. Effectivement, il y a la fraîcheur, il y a une acidité qui est très agréable sur l'attaque comme ça. Et puis on a quand même beaucoup de matière. Hein. C'est un vin rouge pétillant, donc on a quand même beaucoup de matière. Donc c'est léger, mais en même temps c'est intense. Je trouve qu'il y a pas mal de. Il faudrait que je le regoute pour savoir toutes les variétés de saveurs qu'on peut avoir. Mais comme je parle, je peux pas à la fois goûter et parler. Donc je passe le micro à Fred.
Non, mais c'est là qu'il est dangereux parce qu'on en boit beaucoup en fait.
Et donc, sous maturité, c'est-à-dire il est ramassé à peu près à combien de degrés
Là, au final, il fait 10 degrés et demi. Voilà, donc c'est vraiment ramassé tôt. Hein, on ramasse ça En août, voilà, avant le 1er septembre.
Sous maturité, ça ne veut pas dire que c'est vert. Hein. Ça veut dire qu'on le ramasse avant que le cinceau soit un peu plus confit. Quoi. Mmh. Donc
et tout le travail.
C'est mûr quand même, on sent les arômes mûrs.
Oui, oui,
et du coup, puisqu'on parlait du travail de la vigne, que le vin se faisait à la vigne, là, tout le travail, c'est d'avoir du goût alors qu'on sait qu'on va le ramasser tôt. Quoi. C'est sûr que s'il n'y a pas de goût, il n'y aura pas de vin derrière.
Et alors, ça, comment on fait?
Ah, mais ça, c'est...
Le secret de fabrication. Mais en ça, tout c'est... cas, ça marche. Pétillant rouge, c'est un peu plus rare dans la gamme des pétillants, non? Je me tourne vers les cavistes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vos clients arrivent à être curieux
Les clients regardent de moins en moins la couleur maintenant. Ils nous font confiance, mais oui, c'est vrai que c'est quand même plus rare.
Non, oui, c'est plus difficile de vendre, enfin en ce qui me concerne, de vendre pétillant rouge que du blanc ou du rosé, mais depuis quelques années, quand même, on en voit arriver, et c'est vrai que c'est plutôt agréable aussi.
Oui. Si je peux me permettre, c'est un pétillant rouge.
Ah oui, rouge, c'est pas tout à fait un rouge. C'est vrai qu'il est entre rouge et rosé, au-delà de rimer avec Mirouze. Et il a, si je me permets aussi, une forme d'équilibre. Il a beaucoup d'acidité, il a un petit peu d'amertume. Et donc, du coup, ça se rapproche de ces vins pétillants blancs, aussi rosés. Enfin, on a envie de boire ça à l'apéro.
Oui, il a peu de tanin parce qu'on fait une macération courte. De 4-5 jours. Donc il extrait peu de tanin. Alors c'est vrai qu'il est rouge, mais il a beaucoup de fruité, beaucoup de gourmand. Il a une très légère trame tannique, mais du coup avec des fines bulles, ce qui ne le renforce pas le côté tannique. Donc ça en fait pour nous un vin d'apéritif. Très facile, très agréable. Et à 10,5, on peut en boire.
Ouais,
on n'a pas trop mauvaise conscience.
Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui de parler de la fabrication du PetNat, mais c'est un vrai boulot très long, hein, qui explique aussi le prix de la bouteille. C'est un long processus de faire du pétillant naturel, parce qu'il finit sa fermentation en bouteille, mais après, il y a encore plein d'autres étapes.
La phase de dégorgement, c'est un peu compliqué.
C'est un peu compliqué à produire.
Mais c'est beaucoup de joie, à la fin.
En effet, et on passe un peu au pas de charge, au deuxième vin, parce qu'on ne voudrait pas partir sans avoir goûté une autre cuvée. Donc, quelle est cette deuxième cuvée que vous nous avez apportée?
Donc là, je vous présente la cuvée Sol. C'est un Corbière rouge du millésime 2020. Donc, c'est intéressant parce qu'il est issu de notamment le Mourvèdre qu'on a visité tout à l'heure, qui est sur ce terroir ferrugineux, et avec en assemblage la Syrah qui est juste un petit peu en dessous.
C'est le vin qu'on a écouté finalement.
Exactement. Et ce sont nos parcelles les plus exposées au sud, dans un environnement qui est plutôt frais. Hein. Nous, on a plutôt les vignes côté nord. Et ce sont des parcelles assez chaudes. Donc Sol, pour nous, c'était un hommage à tout ce travail qu'on a fait au départ sur la vie dans les sols. Et c'est aussi en occitan, le soleil. Et donc c'était la conjonction ou la rencontre entre le terroir, le soleil, donc l'environnement, et d'avoir un vin qui soit un vin rouge, un peu d'élevage, mais sans aucun, un vin de garde plutôt, sans aucun élevage bois. Donc c'est 100% cuve. Par contre, il y a un élevage de 1 an en cuve, 1 an en bouteille. Donc là, ce sont nos premières présentations du 2020.
D'accord.
C'est les premières, puisqu'il est à peine, il sort de son élevage bouteille. Et on arrive à avoir beaucoup de concentration, de densité. Il y a un côté séveux dans ce vin qu'on retrouve et qui est un peu la marque presque balsamique, un peu la marque de ce terroir exposé sud, de ces deux vignes-là. On ne le retrouve pas sur d'autres Syrah qu'on a ailleurs.
Et ces deux vignes qui sont atypiques dans notre... elles sont toutes atypiques. Hein, on fait du parcellaire parce que chacune a quelque chose à raconter. Mais là, ces deux-là, leur différence, c'est vraiment l'exposition et le fait qu'elles sont ouvertes. C'était très lumineux quand on a visité la parcelle ensemble. Et Karine en a parlé, ce sol, cette présence de fer, ça aussi, ça participe à la dimension solaire en fait qu'on a dans ce vin.
Un dernier mot pour conclure, l'un ou l'autre, Thierry, Fred, sur cette cuvée.
Pas beaucoup de choses de plus à dire, parce que je crois que tout a été dit, si ce n'est qu'on retrouve la texture un peu qui est la signature de Beauregard Mirouze. C'est sûr très soyeuse, parce que ça peut être concentré, ça peut être dense, mais c'est pas lourd. Il y a la fraîcheur et il y a une sorte d'onctuosité sur la langue, comme ça, qui est très agréable quand on boit ce vin.
Merci Karine et Nicolas Murouz d'être venus vous raconter un peu à ce micro et de nous avoir fait déguster vos vins. Merci Frédéric Lambeuf et Thierry Guichard. Merci Salima aujourd'hui à la technique dans les studios de Radio Languedoc. Merci aux auditeurs fidèles qui nous suivent sur Radio Pays d'Hérault ou en podcast. Et merci à ceux qui nous rejoignent sur Radio Languedoc. Adieu tout le monde, à la prochaine.
Adieu.
Adieu.
Merci.
Mangez bien, buvez sain, on se retrouve le mois prochain.
Hey! Tampoco bala tu que truca tu que tac tu que toca tu que diga tu que raga tu que digo raguna na bebe mi nuca petit capuri en quelli coba tu que truca tu que tac tu que toca tu que diga tu que raga tu que digo raguna na bebe mi nuca petit tampoco bala tu que truca tu que tac tu que toca tu que diga tu que raga tu que digo raguna na bebe mi nuca petit capuri en quelli coba tu que truca tu que tac tu que toca tu que diga tu que raga tu que digo raguna na bebe mi nuca petit.